Philippiens chapitre 4, il évoque le soutien des Philippiens 10 ans après que l'Église ait été fondée. Et pendant ces 10 années, ils ont été fidèles pour l'aider et l'encourager dans son ministère, et ça l'a énormément aidé dans des périodes qui ont été parfois très très difficiles dans son service. Voilà, on va s'arrêter là. J'ai noté d'ailleurs que le mot « communion » peut être rendu, vous voyez, là aussi, koinonia, par contribution, collecte, association, participation, communication, libéralité. Aucun mot français ne recouvre à lui tout seul ces différents sens qu'a le terme grec, y compris dans son usage dans le Nouveau Testament. Voilà, on va s'arrêter là. On dira peut-être quelques mots ce soir dans l'introduction de la seconde étude, mais qui, elle, nous enverra vers un texte d'acte 9, mais on dira encore peut-être juste 2-3 mots qui feront le lien avec ce que nous avons vu maintenant. J'ose suggérer que de lire dans le livre des actes, au chapitre 9, parce qu'il n'est plus question de notre ami Barnabas, après le paragraphe de fin de chapitre 4, et jusque dans acte 9, où je lirai pour vous les versets 23 à 28. Acte 9, 23 à 28. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer. Et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit, sommes à Damas, afin de lui ôter la vie. Mais pendant une nuit, les disciples le prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre aux disciples, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il soit un disciple. Alors, Barnabas l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé, et comment à Damas il avait prêché hardiment au nom de Jésus. Dès lors, il allait, venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait avec hardiesse, assurance, au nom du Seigneur. Nous ajoutons simplement 3 versets de la fin de l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 15, Romains 15, versets 5 à 7, Romains 15, versets 5 à 7, que le Dieu de la persévérance, donc de la constance et de la consolation, nous sommes là dans notre thème avec le paraclet, consolation, il est là, que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments ou de vivre le bon accord ou en bon accord les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche,
vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueilli pour la gloire de Dieu. » Alors là, le verset 7 est légèrement appauvri, bon, ça ne change rien sur le sens profond, mais il a plus de relief dans le texte grec, et heureusement, certaines versions ont mis la petite nuance. La Bible à la Colombe, par exemple, « Faites-vous mutuellement bon accueil, comme Christ vous a accueilli pour la gloire de Dieu. » C'est pas seulement le verbe « accueillir » tout simple, mais il est renforcé. Il y a une préposition qui montre que c'est quelque chose qui va plus loin encore que un accueil tout à fait banal, classique, habituel. C'est quelque chose d'actif, et on y ajoute beaucoup de cœur. Nous aurons l'occasion de revoir cela de plus près. Nous nous sommes donc penchés sur le premier passage qui nous présente un certain Joseph surnommé par les apôtres Barnabas, l'homme qui encourage, dans Acte 4. Ceci avec cette toile de fond de Jean 14 à 16, le testament spirituel de Jésus à ses proches disciples, qui utilisent ce terme fondamental, paraclé, n'est-ce pas, pour évoquer celui que l'on appelle auprès de soi, à côté de soi, pour apporter une aide. Et nous avons remarqué la richesse d'applications pratiques dans toutes sortes de directions de ce terme, y compris dans les Écritures. Nous n'avons pas épuisé les réflexions concernant ces versets 36 et 37 d'acte 4, mais nous voulons aller plus loin. J'aimerais simplement, au passage, vous rappeler que lorsque nous avons lu acte 4, 32 à 37, nous ne nous sommes volontairement pas arrêtés. À la fin du chapitre 4, nous avons lu les deux premiers versets du chapitre 5. Tout simplement parce que, de toute évidence, Dieu a voulu conduire son serviteur, le médecin Luc, à établir un lien, et un lien d'opposition entre deux attitudes, celle de ce fameux Barnabas dans les versets 36 et 37, dans son esprit de solidarité affectueuse et concrète à l'endroit de ses frères et sœurs ayant une situation difficile dans cette jeune église de Jérusalem, et puis de l'autre côté, ce couple, Ananias et Saphira, qui va lui aussi vendre quelque chose, en l'occurrence une propriété, mais qui va le faire avec des motivations problématiques. Et vous savez combien nos motivations, hein, ce qu'on pense, ce que les autres ne voient pas d'ailleurs, sont quelque chose d'absolument fondamental au regard de Dieu. Et c'est beau de voir le discernement de Pierre, suivi d'ailleurs d'une attitude très sévère, exemplaire, hein. Il y a une sorte d'irruption du temps du jugement dans le temps de la grâce. Et il y a comme ça, ici et là, dans les Écritures, des échantillons de ce qu'est le jugement de Dieu dans l'ère de la grâce, qui annonce le temps où alors le jugement de Dieu va se manifester dans toute son amplitude Et c'est généralement tout à fait exemplaire. On compare souvent acte 5, le début d'acte 5, à l'histoire de la conquête de la terre promise, avec ce terrible dérapage lié à la défaite d'Aï après la grande victoire de Jéricho, Josué 6 et 7, lorsque Achan, n'est-ce pas, a lui aussi joué dans ses motivations et dans son attitude vis-à-vis des biens matériels avec la parole de Dieu et avec les ordres qui avaient été donnés dans cette guerre de conquête. Nous avons là deux situations parallèles, et dans les deux cas, vous avez une irruption du jugement dans le temps de la grâce. Et j'aime cette succession entre le court flash tellement riche concernant Barnabas à la fin du chapitre 4 et ce début du chapitre 5, ne fût-ce que à cause de la nécessité de faire attention dans nos vies, dans l'exercice des dons en général, et plus particulièrement ici dans le cadre du don de solidarité, d'encouragement, de l'amour qui partage les biens, au danger de succomber à la tentation de la contrefaçon. En fait, nous avons un don qui se manifeste de manière authentique, qui est un don du Saint-Esprit, chez un homme qui est vraiment consacré au Seigneur, qui ne joue pas les vedettes, qui ne veut pas se mettre en avant, et d'ailleurs toute la suite de sa vie va le prouver, c'est pas un homme qui a voulu se mettre en avant, loin de là. Dieu l'a utilisé de manière remarquable, mais il y a beaucoup de modestie et d'humilité dans le comportement de Barnabas. Alors, d'un côté, il y a cette consécration si belle, et de l'autre, il y a sa contrefaçon. Peut-être, le rayonnement spirituel, la beauté de caractère, la belle générosité de Barnabas faisait-elle quelque peu de l'ombre à Ananias en particulier, qui jalousait, le problème de la jalousie par rapport aux dons des autres, et qui a voulu laisser croire à une consécration de la même veine qui aurait permis, disons, à un peu de gloire de venir jusque chez lui et à ne pas se concentrer sur Barnabas comme c'était le cas. Donc, faisons très attention dans ce domaine de ne pas succomber à cette tentation du plagiat qui consiste à, dans le cas présent, à donner l'apparence du complet détachement du premier amour et en réalité on veut servir deux maîtres en paraissant n'en servir qu'un. Ce qui est important, c'est de réaliser que je suis libre dans l'épanouissement de ce don d'encouragement. Je ne suis pas contraint simplement d'imiter formellement quelqu'un. Il faut que mon cœur soit en harmonie avec mes gestes. Ça, c'est quelque chose d'absolument fondamental, quels que soient d'ailleurs les dons que nous exerçons. Mais je ne veux pas m'y arrêter parce que nous avons là ce soir une seconde réflexion qui est vraiment stratégique et belle, complémentaire à tout ce que nous avons vu jusqu'ici, dans acte 9, 26, 27, qui est un texte très court encore, mais une pépinière d'enseignement pratique extrêmement important, et nous commençons à toucher là au relationnel de manière encore plus profonde. Précisons d'emblée que les versets 26-27 se situent aux alentours de l'an 36 ou de l'an 37 de ce qu'on appelle l'ère chrétienne, vous verrez que c'est important, parce que avec acte 11, que nous verrons demain matin, nous aurons un nouveau jalon et les périodes aussi auront beaucoup d'importance. Alors, ce que nous savons aussi à la lumière d'autres textes bibliques complémentaires à celui-ci, notamment un texte de Galates 1, versets 15 à 20, nous savons que lorsque Saul se rend à Jérusalem, verset 26, il a derrière lui, en tout cas, 3 années de marche avec Christ. Si vous voulez, il y a entre le verset 25 et le verset 26, hein, la fin du verset 25, c'est ce départ, non en fanfare, mais dans le secret le plus absolu, dans une grande corbeille, là, il passe la muraille de Damas. Nous avons passé du temps à Damas, juste à l'époque d'ailleurs où j'étais en train de préparer ce livre, et c'est très intéressant sur ce plan. Nous logions d'ailleurs tout près des murailles de Damas, et donc on voit là les disciples qui le prennent, le descendent par la muraille dans une corbeille, et il part. Il part sans doute dans le désert de Syrie, c'est un grand désert en Arabie, c'est le grand silence à son sujet. On n'a absolument aucun détail sur ce qui va se passer pendant 3 années dans ce désert. On peut déduire de la suite que manifestement ces 3 années ont été des années de mise à l'écart pendant lesquelles le rabbin Saul, qui peut-être connaissait l'Ancien Testament par cœur, hein, il faut voir un peu la connaissance que les rabbins avaient des Écritures, et il se peut qu'il ait été capable de réciter l'Ancien Testament par cœur. Mais il lui fallait quand même refaire sa théologie. L'irruption du Seigneur Jésus-Christ dans sa gloire sur le chemin de Damas a été un tremblement de terre qui a travaillé très très profond dans sa vie. Et certainement, durant ces 3 ans, il a dû faire un certain nombre de mises au point extrêmement importantes. Et puis, on le verra peut-être aussi, il avait, dans le domaine du caractère, un lourd passé. C'était pas un homme auquel il faisait bon se frotter. Là aussi, on a beaucoup idéalisé l'apôtre Paul parce que on s'arrête surtout sur ce qui se passe après le chemin de Damas et beaucoup plus tard. C'était pas de la tarte, puisqu'on a mangé de la tarte ce soir, hein, que le caractère de ce cher ami. En tout cas, il est disciple de Jésus-Christ depuis 3 ans, quand il se rend à Jérusalem avec un profond désir. C'est donc de se joindre aux disciples. Et ça, c'est une caractéristique que j'aime beaucoup chez le futur apôtre Paul. C'est que dès sa nouvelle naissance à Damas, il est irrésistiblement attiré par l'Église. Lui qui a combattu la voie, comme on disait à l'époque, l'Église de Jésus-Christ, à outrance. Lui qui a été le champion des ennemis de l'Église de Jésus-Christ, avec ses chromosomes spirituels, avec cette nouvelle vie en lui, ce travail du Saint-Esprit, dès sa nouvelle naissance, il est attiré, il se joint tout de suite aux disciples. Il réalise l'importance des frères et sœurs. J'aime à dire que le futur apôtre Paul ne s'appelait pas seul, mais Saul. Il faut le dire. Et il faut le dire parce que Il y a, depuis longtemps, le Gaulois est individualiste, hein, mais à l'heure actuelle, il y a un de ces individualismes, y compris dans, justement, dans l'Église, dans cette Église si souvent très éclatée. Les Robinson Crusoe, c'est incroyable ce qu'ils sont nombreux actuellement. Bon, il y a ceux qui ont tout à fait tort de l'être, ils le sont parce qu'ils le cherchent, parce qu'ils le veulent, parce qu'ils tiennent à leur autonomie, à leur indépendance, ils ne veulent pas qu'on leur mette le grappin dessus, ils ne veulent surtout pas avoir affaire à l'autorité. La crise de l'autorité, elle touche sur ce plan-là aussi. Bon, maintenant, il y a aussi ceux qui sont aussi de plus en plus nombreux et qui sont des laissés pour compte ou des marginalisés, tout simplement parce que sans avoir un sale caractère, sans faire des histoires pour rien, sans être pointilleux et maniaque de la vérité à l'excès, le nombre d'églises qui connaissent des crises et des déviations sur des questions importantes par rapport à la vérité biblique devient de tellement important, et ce n'est pas un phénomène propre à la France, mais l'Église est dans une phase actuellement, je pense avec la proximité du retour de Christ, où elle est très attaquée et où toutes sortes de courants, parfois extrêmement graves et destructeurs, la traversent. Et ceux qui veulent rester fidèles se retrouvent parfois SDF, hein, ils sont jetés sur le bas-côté, simplement parce qu'ils sont gêneurs et qu'on n'aime pas ceux qui dérangent, simplement par leur désir de rester sur un terrain de fidélité aux Saintes Écritures. Donc, il y a ces possibilités, ces diverses possibilités de situations. Toujours est-il que l'Église est fondamentalement importante, n'est-ce pas? Le disciple de Jésus-Christ n'est absolument pas fait pour vivre sa foi dans la solitude. Et d'ailleurs, toute l'histoire de l'Église est là pour prouver que tous ceux qui ont essayé de vivre en marge de l'Église de Jésus-Christ, cela a donné des courants absolument catastrophiques, n'est-ce pas? Nous avons besoin les uns des autres, je le mets, solidité ne rime pas avec solitude, mais avec solidarité. Il faut faire attention dans ce domaine. Nous avons besoin les uns des autres pour croître en solidité. Et les termes sont très forts dans le verset 26. Hein, lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul, en fait c'est un imparfait qui est utilisé dans le texte original, on pourrait traduire Saul, essayer, c'est-à-dire que il n'a pas fait de très brefs efforts, il a perpétué une action de rapprochement, il a essayé pendant un certain temps. L'imparfait, c'est un temps qui en grec s'inscrit vraiment dans la durée, dans la continuité, dans la persistance, dans une décision qui, dans l'esprit, est clairement arrêtée, mûrie. Hein, c'est pas quelque chose qu'on décide comme ça. Hein, donc, il est venu à Jérusalem dans le but de vraiment se joindre. Là encore, le texte original est très fort, littéralement de coller aux disciples. De coller. D'ailleurs, le verbe grec a exactement cette consonance, kolaomai, coller aux disciples, de s'agréger aux disciples. D'ailleurs, une des versions, je crois que c'est la Tobe, qui traduit bien en utilisant le terme s'agréger. Hein, de vraiment s'identifier, de faire corps avec les disciples, et puis. C'est la catastrophe, hein. Mais tous le craignaient ne croyant pas qu'il soit un disciple. Ah. Et ça devait être très difficile. Mais il avait une mauvaise réputation qui lui collait à la peau. Et ça, on doit quand même s'en souvenir quelque part. Je dis très souvent que il y a dans, nous transportons dans nos vies, pas toujours heureusement, nous transportons des mines antipersonnelles. Vous savez, vous êtes en plein conflit, en pleine guerre, la guerre se termine, la paix est signée, chacun réintègre son foyer, on commence à reconstruire un pays, et puis 20 ans plus tard, vous avez encore chaque jour des gens qui meurent, parce qu'ils sautent sur des mines, c'est le cas au Cambodge, c'est le cas dans quantité de pays au monde actuellement, la guerre est finie. Mais chaque jour, il y a des victimes d'une guerre qui s'est passée il y a quelques années en arrière. Ben, c'est comme ça dans nos vies. Nous traînons avec nous des mines antipersonnelles qui sont liées à notre passé. Et on n'y pense pas assez. Hein. Et dans notre cheminement, ben, il arrive un moment où telle ou telle mine saute. Là, c'est un peu une mine antipersonnelle qui saute. La guerre entre Saul de Tarse et l'Église est finie depuis 3 ans, mais 3 ans plus tard, subitement, une mine lui saute à la figure, qui est liée à son passé. Alors, le texte est très intéressant. Parce que on peut dans un premier temps, et c'est toujours important quand on analyse les Écritures et les récits de ce genre, et qui sait s'ils sont nombreux dans la Bible, il est toujours intéressant d'essayer de se mettre dans la peau des personnages. Alors bien sûr, il faut se mettre dans la peau de Saul de Tarse, mais il faut aussi essayer de se mettre dans la peau de la communauté, de l'Église de Jérusalem. Vous imaginez les bruits qui pouvaient courir hein, au sujet de sa conversion, mais il avait disparu de la circulation. Hein. Il avait été là dans le désert, peut-être du côté de Damas, peut-être plus loin encore, mais on n'avait pas entendu parler de lui. Mais on avait encore les bruits d'une éventuelle, soi-disant, conversion à Jésus-Christ. Je ne sais pas comment vous réagiriez si toute votre famille avait été jetée en prison, que certains avaient été fouettés jusqu'au sang, d'autres entravés dans un cachot pendant des mois et des mois, sur l'ordre d'un type du genre de Saul de Tarse, et ceci à cause de votre foi, et qu'il soit reconnu comme véritablement le triste champion en matière de cruauté. Hein, quand on lit, si vous lisez un peu tout ce qu'il y a dans les Écritures au sujet du caractère de Saul à cette époque, hein, chapitre 9, versets 1 et 2, Saul respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples. Hein, si vous allez au chapitre 8, au verset 3, Saul, de son côté, ravagé, c'est un terme extrêmement... C'est d'ailleurs ce qu'on appelle un apax, un terme tout à fait unique pour la totalité du Nouveau Testament. Et vraiment, il ruinait, il détruisait, ravageait l'Église, pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Si vous allez au chapitre 26, versets 9 à 11... Chapitre 26, versets 9 à 11, et là c'est sur ses lèvres même, dans son témoignage. Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth, c'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu des pouvoirs des principaux sacrificateurs. et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage au suffrage des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues, je les forçais à blasphémer dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. Et on pourrait continuer dans l'Épître aux Galates. En fait, il y a ici et là des échantillons qui montrent un paroxysme de méchanceté, de cruauté, de haine implacable vis-à-vis de cette voie nouvelle qu'était la voie de l'Église de Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que vous voulez si quelqu'un disait à autrui dans l'Église, t'as entendu, Saul de Tarse, il se serait converti à Jésus-Christ, il aurait eu une vision, quelque chose d'assez extraordinaire, sur le chemin de Damas, à proximité de la ville. Vous imaginez la réaction de ceux qui étaient en souffrance, la personne qui enlevait un petit peu cette tunique pour montrer son dos, complètement lacéré, avec toutes les marques des souffrances du passé. Écoutez, nous voulons bien avoir la foi pour croire que Dieu peut faire des miracles de salut, mais Saul de Tarse, non, c'est au-dessus des capacités de Dieu. C'était une église hérisson, où on vivait l'unité, on vivait la solidarité, mais on peut vivre en tant qu'église locale une solidarité coupable. Et on peut vivre une unité coupable. Et là, on la vivait par peur. On avait peur. Regardez dans Acte 9, au verset 10 et suivant. Acte 9, 10 et suivant. Il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondait, « Voici, Seigneur !» Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite. » C'est intéressant, parce que cette rue existe toujours, c'est la plus grande rue du vieux Damas. La rue la plus large aussi, je l'ai parcourue je ne sais combien de fois, c'est très 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 longue rue, la rue droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie. Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait, qui lui imposait les mains, afin qu'il recouvre la vue. Et Ananias répondit, « Seigneur, t'es pas au courant? T'as pas lu le journal ?» J'ai appris quelque chose que tu ne sais pas. C'est un scoop, Seigneur. J'ai une nouvelle pour toi. J'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Et puis, vlan, le Seigneur l'arrête. Va. Il dit, ça suffit. Je suis mieux informé que toi. Va. Vous savez, quand une phrase commence comme ça, vous pouvez être sûr que le Seigneur est en train, gentiment mais clairement, d'interrompre quelqu'un. Ça suffit. J'en sais assez. Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Aïe, aïe, aïe. La peur. La peur perturbatrice de la communication. Il y a des peurs qui sont nécessaires et légitimes, et qui sont une saine protection. Et c'est aussi certain, nous le dirons un peu plus tard, qu'il faut être prudent en ce qui concerne l'unité de l'Église. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de légèreté. Beaucoup de légèreté, et je dirais aussi bien à la gauche qu'à la droite, des conceptions de la vie de l'Église locale. Mais la peur joue un rôle énorme pour fausser notre communication. Je ne vais pas vous en donner des exemples, mais j'en ai là sous les yeux, mais il faut que nous avancions. Et ce qui est important et ce qui est intéressant, c'est ce tournant dans notre histoire, verset 27, qui intervient dans cette situation?
Barnabas. C'est Barnabas. Et c'est beau qu'il intervienne parce qu'il est quand même dit, et moi je crois le texte tel quel, tous avaient peur de lui. Tous le craignaient. C'est-à-dire que Barnabas n'avait rien d'un Superman, sans peur et sans reproche. Non, je suis persuadé que Barnabas connaissait l'envergure du bonhomme. Il avait été lévite, l'autre avait été rabbin. Il devait en savoir suffisamment pour savoir quel était le calibre du bonhomme. Barnabas certainement avait peur, mais je ne sais pas si c'est adressé d'abord aux membres à ses frères et sœurs dans l'église de Jérusalem, mais je peux imaginer qu'il se dise, en tout cas au tréfonds de lui-même, Barnabas, hein, si jamais on se trompe dans notre attitude vis-à-vis de Saul, et qu'il soit véritablement converti à Jésus-Christ, un authentique enfant de Dieu, alors ça peut être grave. Si on maintient dans le fossé, sur les bas-côtés, hors de l'Église, quelqu'un qui appartient à l'Église de Jésus-Christ, alors nous sommes gravement coupables. Or, il y a un problème. C'est que personne n'est allé voir Saul pour lui poser des questions. Et Barnabas nous dit, le texte le prend avec lui et le conduit. Ben, ça veut dire tout d'abord qu'il entre en contact avec lui. Et ça, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Nous allons y venir. Il va prendre contact avec lui. Il désire bâtir un pont. Et je peux là aussi l'imaginer disant, Seigneur, j'ai peur. Parce que Saul de Tarse, c'est pas n'importe qui. J'ai pas tellement envie de pénétrer dans l'antre du lion, du fauve, de la panthère. Imaginez ce que vous voulez. Franchement, Seigneur, j'ai peur. Maintenant, je te remets ma peur. Et Seigneur, je vais aller voir Saul. Je veux savoir la vérité. Parce que nous n'avons pas le droit de vivre une solidarité qui serait une solidarité de hérisson, une solidarité coupable. Nous risquons d'ailleurs de nous priver aussi d'un élément de ton corps que tu peux utiliser avec ses dons, etc. Alors il va bâtir un pont, et j'aime appeler Barnabas le constructeur de pont, mais il ne va quand même pas bâtir ce pont n'importe comment. Il va prendre des précautions, il ne va pas tendre une main d'association à n'importe qui, c'est important. Et là, je pense à cette catastrophe terrible du 29 septembre 1993 à Vaison-la-Romaine, quand cette rivière Louvèze est sortie de son lit suite à des pluies torrentielles. Je me souviens de ce reportage d'un amateur qui a suivi l'avancée de cette vague de 17 mètres de haut, hein, qui s'est précipitée dans ce goulet très étroit au cœur de Vaison-la-Romaine et qui drainait depuis des kilomètres sur son passage des voitures, des caravanes, des blocs de rochers, des arbres, mais une multitude de choses, mais avec une puissance, n'est-ce pas, et qui est venu heurter de plein fouet, mais avec une puissance incroyable,
un vieux pont, le pont romain, dont on savait par l'histoire qu'il avait pratiquement 2000 ans, c'est-à-dire qu'il a été construit au début de l'ère chrétienne. Peut-être même à l'époque où Jésus foulait le sol, ou était en tout cas petit, dans un village à Nazareth, donc dans les premiers temps de l'ère chrétienne, voyez. Et ce qui est intéressant, c'est que cette vague a balayé, mais comme des allumettes, comme fétus de paille, toute une série de ponts qui ont été construits beaucoup plus récemment, en tenant compte de toutes les règles possibles et imaginables en matière de physique, etc., n'est-ce pas ? Ils ont été emportés en un rien de temps. Et quand cette vague est arrivée sur le pont romain, eh bien, le pont romain a tenu. Tous les ponts sont écroulés, mais le pont romain a tenu. Il y a là un symbole. On ne bâtit pas des ponts relationnels n'importe comment. Et dans le cas présent, notamment aussi pour l'intégration dans l'Église. Pour l'intégration dans l'Église. Autant il est coupable de maintenir quelqu'un à l'extérieur par peur liée à sa mauvaise réputation sans aller le voir, à cause des dommages, etc., etc., autant on est coupable si notre église devient une salle des pas perdus où n'importe qui peut entrer, sortir, et où on a une conception de la communion, de la koinonia et de l'unité vaporeuse, éthérée, élastique, n'est-ce pas ? Et vous savez, on le verra d'ailleurs plus loin encore, un de nos grands problèmes, c'est notre tendance permanente au déséquilibre. Martin Luther l'a bien réalisé, il avait trouvé une formule épatante dans son langage très imagé, il avait un langage révolutionnaire à une époque, son allemand était fantastique et révolutionnaire, il l'a vraiment rénové. Pour sa traduction d'ailleurs, la Bible, c'est intéressant. Et il disait, l'homme est semblable à un cavalier ivre. Monté à cheval sur la selle, son ivresse le fait pencher et tomber d'un côté. Remonté sur son cheval, son ivresse le fait tomber de l'autre. Et c'est un des domaines les plus difficiles de la vie chrétienne, que de vivre un sain équilibre. Il est beaucoup plus facile de s'installer dans un extrémisme, qu'il soit d'un côté ou d'un autre. J'ai souvent pris l'exemple de ce qui se faisait autrefois quand on n'avait pas tout l'équipement fantastique quand on voyage pour les enfants. Là, maintenant, on est tellement bien équipé, mais autrefois, il fut un temps, bon, on arrivait chez quelqu'un, on n'avait pas le matériel pour que l'enfant dorme sur place, donc on demandait est-ce qu'on pourrait mettre bébé dans une chambre, dans un lit, quelque part, en prenant quelques précautions. Alors on ouvrait une chambre. Si le lit était loin des coins, on dit est-ce qu'il y a moyen de pousser le lit dans le coin, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que on allait protéger un côté, hein. Et puis, on savait que le bébé allait se pelotonner le plus possible dans le coin. Ben, il existe un infantilisme spirituel qui consiste à vivre l'extrémisme. C'est-à-dire qu'on n'a plus qu'à se protéger d'un côté quand on est extrémiste. Vous voyez ? On se barricade d'un côté, puis on pousse le plus possible dans le coin, contre le mur, que ce soit dans un conservatisme de tradition extrêmement farouche où on confond ce que disent les Écritures avec toutes nos traditions, etc., n'est-ce pas, avec un légalisme, un catalogue absolument épouvantable de règles qui n'en finissent pas, comme celle des rabbins qui avaient alors au niveau des prescriptions concernant simplement le sabbat. C'est incroyable. Il y a quatre grandes prescriptions dans les Écritures sur le sabbat. On a vite fait le tour, hein. Mais ils avaient réussi à augmenter en subdivisant l'intérieur des quatre éléments bibliques. Écoutez, je ne me souviens plus si c'est pas. Il y avait 36 chapitres. On arrivait en fait à au moins 1500 commandements sur le sabbat. Vous imaginez un règlement intérieur dans une église locale qui est affiché à l'entrée, hein, sur le panneau, avec 1500 articles, simplement sur la question du sabbat. Une position d'extrême. Et puis, il y a de l'autre côté les positions d'ouverture qui foisonnent à l'heure actuelle, où qu'est-ce que c'est que l'unité, hein, qu'est-ce qu'on ne sacrifie pas sur l'autel de l'unité aujourd'hui. C'est difficile, hein, de vraiment se tenir, hein, ferme sur le terrain des Écritures pour ne pas bâtir n'importe comment. J'ai là une prière très intéressante, n'est-ce pas, qui sort du manuel pour les cultes du dimanche de la Mission universelle en 1989 à Aix-la-Chapelle et Munich. Sois loué, Seigneur, tu es le Dieu d'Israël, tu conduis au travers d'étendues impraticables, tu délivres de l'esclavage et de l'oppression, tu promets un monde nouveau. Deuxième strophe, sois loué, Seigneur, toi le Dieu de Mohamed, tu es grand et élevé, tu es incompréhensible et inaccessible, tu es grand en tes prophètes. Troisième strophe, sois loué, Seigneur, toi le Dieu de Bouddha, tu habites les profondeurs du monde, tu vis en chaque homme, tu es la plénitude du silence. Quatrième strophe, sois loué le Seigneur, toi le Dieu de l'Afrique, tu es la vie dans les arbres, tu es la force dans le Père et la Mère, tu es l'âme du monde. Et enfin, sois loué Seigneur, toi le Dieu de Jésus-Christ, tu te répands en amour, tu te donnes en bonté, tu triomphes de la mort, mes amis. Ben, ça fait partie, hein, de ces ponts, de ces viaducs qu'on jette. Et il y a une montée parfois de syncrétisme, y compris dans nos milieux évangéliques, hein, parce que c'est pas très populaire de se tenir sérieusement sur le terrain des Écritures. Si je vous donne un autre exemple qui va vous faire frémir, c'est un calendrier, donc avec des illustrations, qui était destiné à préparer le jour de l'Église protestante d'Allemagne de 1993, puisqu'ils ont chaque année une grande journée très spéciale qu'on appelle le Kirchentag, et qui présentait 12 motifs d'un concours d'affiches ayant eu pour thème la devise de Romains 15:7 que nous avons lu tout à l'heure, « Accueillez-vous donc les uns les autres ». Alors tenez-vous bien, le troisième prix fut remporté par une artiste dont la production picturale fut retenue pour illustrer la feuille du mois de février. Elle représente tout en blanc la personne de Christ avec une ébauche de couronne d'épines sur la tête, s'enlaçant avec le diable, un diable aux pieds beaux, avec cornes et queues. Et dans une note explicative, il est écrit « Jésus n'hésite pas à le prendre dans ses bras, il donne presque une image harmonieuse. » Le troisième prix a été obtenu par cet artiste. Bon, ça, je dirais que ça nous apparaît comme des extrêmes. Mais je pense que, avant d'aller jeter des pierres dans le champ du voisin, regardons bien quelles sont nos propres conceptions des bases de l'unité. Comment se construit l'unité ? C'est extrêmement important. Et Barnabas va donc entreprendre une démarche visant à faire tomber des murs de méfiance et d'incrédulité. Et on peut tirer de cette démarche trois leçons qui me semblent extrêmement importantes et qui vont jouer aussi dans ces ponts que l'on veut jeter, que ce soit dans le domaine de l'unité, que ce soit dans le domaine de relationnel en général à l'intérieur de l'église locale. Le premier enseignement, je l'ai sous-entendu tout à l'heure, Barnabas va à la source. Il va à la source. C'est-à-dire qu'il, dans cette situation précise où son Église est directement concernée, et où il est partie prenante de cette Église, il considère qu'on ne peut pas, par rapport à Saul de Tarse, vivre d'un témoignage de deuxième, troisième, quatrième, cinquième main. Il faut aller se rendre compte sur place, discuter, poser des questions, savoir exactement ce qu'il en est de la bouche même du personnage en question, c'est-à-dire de Saul de Tarse. Barnabas va donc aller frapper à la porte chez Saul de Tarse en tremblant, et je l'imagine devant Saul, lui disant, écoute, voilà, je sais que jusqu'à présent tu as essayé de venir dans notre église, mais nous avons peur. Et je reconnais devant toi, j'ai peur. Le vrai partage, ça signifie dire notre propre vulnérabilité. Ceux qui lisent Notre pain quotidien, ces petites brochures annuelles faites au Québec, dans un endroit d'ailleurs que je connais bien, on peut-être lu le texte du 3 juin 2004, que je vous livre, 3 juin, c'est tout près. Un jeune garçon et son beau-père avaient de la difficulté à communiquer ensemble. L'homme était ouvert, le garçon renfermé. L'aîné aimait pêcher, l'enfant aimait lire. Désireux de se rapprocher du garçon, le beau-père l'a emmené en voyage pour pêcher. Le garçon détestait cela, mais il ne savait pas comment le dire à son beau-père directement. Il lui a donc écrit un mot lui signifiant qu'il voulait rentrer à la maison. Le beau-père l'a regardé et a fourré le papier dans sa poche. La virée de pêche a duré encore 4 jours. Et quand enfin ils sont tous deux rentrés à la maison, le garçon a fait connaître sa frustration à sa mère et lui a dit que son beau-père n'avait porté aucune attention à son mot. Et sa mère lui a alors dit, mais mon fils, ton père ne sait pas lire. L'homme ne l'avait jamais dit au garçon. Et alors le thème, c'est la bonne communication. Et l'auteur de ce petit texte dit, il y a bonne communication, non seulement quand on sait ce qu'on veut dire, mais également quand on connaît la personne à qui on parle. Et pour se connaître, il faut être prêt à laisser les autres connaître nos faiblesses et nos limites. Et donc Barnabas s'est ouvert, il s'est certainement ouvert de sa difficulté. Il a dit, écoute, moi je voudrais savoir, j'ai des questions à te poser. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de qui s'est passé sur le chemin de Damas? C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Que faut-il croire? Est-ce que tu peux me raconter? Raconte-moi. Et Saul a raconté. Et quand on connaît un peu le caractère de Saul, il devait être enflammé en racontant tout ça. Ça devait être quelque chose d'extraordinaire. Et avec la sensibilité affective et affectueuse de Barnabas, moi, je suis tenté d'imaginer qu'à un moment donné, les yeux de Barnabas sont devenus humides. Et que, en entendant ce récit, il y avait au fond du cœur de Barnabas ce témoignage intérieur du Saint-Esprit. Tu sais, Barnabas, tu as un frère en face de toi. Et il est arrivé un moment où, très certainement, ils se sont étreints, embrassés, ils se sont reconnus frères. Parce que la suite est intéressante, il le prend avec lui, on pourrait presque traduire, il met sa main sur lui, il prend autorité, il a eu autorité sur Saul. Ça aussi, c'est un des aspects qui est très fort dans les Écritures. Saul a été un grand leader, un grand conducteur, un chef d'équipe. Mais il a été un bon chef d'équipe parce que c'est un homme qui, d'abord, dès sa conversion à Jésus-Christ, a accepté de se soumettre. Il a accepté l'autorité et je dirais qu'il a vraiment été humilié au moment de sa conversion déjà. Quand vous lisez le verset 8, Saul, acte 9, 8, Saul se releva de terre et quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien, on le prit par la main et on le conduisit à Damas. Vous imaginez ce leader, ce chef, ce cerveau de surcroît connu dans les milieux aristocrates de Jérusalem, sa famille fréquentait ce milieu-là, cette intelligence hors norme, ce champion nec plus ultra du conservatisme pharisien, quand il le dit lui-même dans Philippiens au chapitre 3, et qui se retrouve pris par la main et conduit à Damas. Et puis, tout le reste, c'est un texte qui parle de sa dépendance. On a évoqué tout à l'heure le fait que pendant une nuit, les disciples l'ont pris et l'ont descendu par la muraille dans une corbeille. Hop là, allez Saul, là-dedans. On lui appuie sur la tête, on ferme et hop, et on l'envoie. Et tout est comme ça au début, dans les premiers temps. Verset 30 du chapitre 9, les frères l'ayant su, il est à nouveau en danger de mort, l'emmenèrent à Césarée et le firent partir pour Tarse. Il est placé continuellement seul dans des situations de dépendance, où il dépend de la solidarité de l'Église, de disciples, qui le prennent en charge. Et où il n'est pas question qu'il commence à dire « dites, avec mon passé, vous avez vu ma carte d'identité, mon passeport et mes diplômes ?» Non. Il est un disciple comme les autres. Et il doit d'abord apprendre à accepter dans sa vie l'autorité, à accepter d'être conduit par les autres. Et ça, c'est fondamental. Il y a aujourd'hui beaucoup de chefs qui ne veulent surtout pas d'abord être soumis. C'est fondamental. Le respect de l'autorité est lié au fait que d'abord, on a respecté soi-même. L'autorité. Les autres vont respecter notre autorité dans la mesure, et le Seigneur va agir dans ce domaine, dans la mesure où nous, de notre côté, nous aurons commencé par aussi vivre sous l'autorité. C'est fondamental. Saul n'y a pas échappé. Donc il va à la source. Il nous dit qu'il est important de ne pas avoir d'attitude qui soit construite uniquement sur les « j'ai entendu dire que ».« J'ai entendu dire que ». Importance de vérifier les bruits qui courent, de ne pas bâtir mon jugement simplement sur les impressions des autres, sur ce qui se raconte. Et il y a trois raisons fondamentales à avoir cette attitude. Redissons-le, je l'ai dit rapidement tout à l'heure, nous ne pouvons pas, et ce n'est pas nécessaire, vérifier tous les bruits qui courent au sujet de tout. Il y en a qui ont la maladie de la vérification. Ils sont toujours en guerre, y compris pour des domaines qui n'ont pas d'importance pour eux. Il faut faire attention parce que ça joue aussi sur le caractère. Il y a des domaines où c'est une absolue nécessité. Il faut avoir des informations de première main parce que c'est important pour notre propre témoignage, pour notre réaction ou pour la réaction de l'équipe avec laquelle on travaille, de l'église locale dans laquelle on est. Vous voyez ce que je veux dire. Mais maintenant, il y a quantité de domaines où je ne vais pas commencer à me lancer dans des enquêtes, à ne plus finir. Il faut que je sois concerné par les choses. Trois raisons. Eh bien, curieusement, nous devons vérifier les bruits qui courent parce que Dieu aussi vérifie les bruits qui courent. Ça, c'est bouleversant. Que Dieu vérifie les bruits qui courent. Alors que dans Job 34, 21, 25, il est dit que Dieu n'a pas besoin d'informations pour faire cesser un règne, une fonction, ou pour mettre quelqu'un sur le trône. Il n'a pas besoin d'informations. Et pourtant, en même temps, les Écritures nous montrent un Dieu qui vérifie les bruits. Hein? Vous avez deux textes très intéressants à cet égard, dès le début de la Bible. C'est Acte 11, dans l'érection de la tour de Babel.
C'est pas vrai.
J'ai pas dit Genèse. Oh, pardonnez-moi. Alors, je me repens avec le sac et la cendre. C'est Genèse 11, pardon. Genèse 11. Genèse 11, verset 5. Ils ont bâti leur tour, là ils sont en train de travailler. Verset 5, l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Verset 7, descendons, confondons, etc. C'est intéressant quand même. Hein? Alors on dit, c'est ce qu'on appelle un anthropomorphisme, c'est-à-dire qu'on... On attribue à Dieu des attitudes humaines, etc. Mais bon, je ne suis pas si sûr que ça, qu'il faille simplement laisser ça à ce niveau-là. Surtout quand je vois dans Genèse 18, au verset 21, il est question de Sodome et Gomorre, là, de la fameuse délégation. Alors, les deux anges qui vont descendre, mais au départ, il y a manifestement une intervention, une représentation divine hein, qui est dans le coup. Et donc, Dieu dit, c'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit, et c'est un mot très très fort, venu jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai. Ah, intéressant. Hein? Alors, moi, je suis persuadé que si nous avons de tels textes dans les Écritures, qui nous montrent un Dieu qui sait tout, qui prend pourtant des précautions, c'est parce qu'il y a toute une pédagogie derrière cette formulation. Dans l'éducation des enfants, on fait la même chose. Il y a des domaines où on sait quelque chose, et pourtant, à cause de la formation de nos enfants, on va faire l'ignorant. Ou on va faire un certain nombre de démarches parce qu'on veut faire passer un message à notre enfant sur l'importance de quelque chose. Il y a un aspect pédagogique. Comme si Dieu voulait nous dire, voyez, si moi qui sais tout, je prends des précautions, à combien plus forte raison, vous, mes enfants, qui savez si peu de choses, vous devez apprendre à prendre des précautions et à vous informer. Et comme si, quelque part, au jugement dernier, et je sais que ça ne se passera pas comme ça, au jugement dernier, il n'y aura pas de rébellion. Il n'y aura personne qui, au jugement dernier, dira « Oh Dieu, tu t'es trompé, je ne suis pas celui que tu penses. » Et s'il avait pu y avoir quelqu'un tenant ce type de langage, Dieu aurait dit « Mais j'ai vérifié. » Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a toute une pédagogie. Dieu nous dit « Prends des précautions. » Avant de sanctionner... Avant d'affirmer, prends des précautions. Va voir sur place. C'est absolument fondamental. Dieu vérifie les bruits qui courent parce que Christ ne prononce pas sur un oui-dire. Ça, c'est la deuxième raison. Christ ne prononce pas sur un oui-dire, c'est Ésaïe 11, 3, dans ce texte de prophétie messianique, Ésaïe 11, 3. Ésaïe chapitre 11, verset 3. Donc ce rejeton du tronc d'Isaïe respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire. Oh, j'aime ce texte. Jésus ne prononcera point sur un oui-dire. Et puis enfin, troisième raison, parce que nous avons quand même des passages dans les Écritures sur l'importance de prendre des précautions avant de nous prononcer dans certains domaines. Il y a deux textes dans le livre du Deutéronome, le premier dans Deutéronome 13, versets 12 à 15. Deutéronome 13, versets 12 à 15. Deutéronome 13, 12 à 15. Si tu entends dire au sujet de l'une des villes que t'as donné pour demeure l'Éternel ton Dieu, des gens pervers sont sortis du milieu de toi, ont séduit les habitants de leur ville en disant, allons, servons d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point. Tu feras des recherches, tu examineras, tu interrogeras avec soin. La chose est-elle vraie? Le fait-il établi? Cette abomination a-t-elle été commise au milieu de toi? Alors tu frapperas. Voyez les précautions? Cette répétition, d'ailleurs, par groupe de trois, ce qui, dans la stylistique en hébreu, est très important, parce que ça montre que c'est le plus haut niveau, on prend des précautions absolument inouïes, qu'on va retrouver au chapitre 17 concernant le même type de problème. Hein. Deutéronome 17, 2 et suivant, il se trouvera peut-être au milieu de toi dans l'une des villes que l'Éternel ton Dieu te donne, un homme ou une femme faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel ton Dieu, transgressant son alliance en allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, après le soleil, la lune ou toute l'armée des cieux. Ce n'est point là ce que j'ai commandé. Dès que tu en auras connaissance, dès que tu l'auras appris, tu feras avec soin des recherches. La chose est-elle vraie? Le fait est-il établi? Cette abomination a-t-elle été commise en Israël? Alors, tu frapperas. Alors, bien sûr, ceci, c'est dans des situations graves où il est question en quelque sorte, du rôle de la justice, hein, que la justice ne frappe pas sans prendre toutes les précautions, sans pousser ses enquêtes au maximum pour disposer d'un dossier qui soit bien ficelé, qui tienne la route pour éviter les dégâts. Mais si c'est valable dans ce domaine, nous devons, nous aussi, de toute manière, faire attention, parce que de nos évaluations ou de notre laxisme dans ce domaine peuvent dépendre l'avenir de certaines personnes. La preuve dans l'histoire de Saul de Tarse, hein, il pouvait y avoir des conséquences extrêmement graves. Alors là, nous aurions pu, je le fais dans mon livre, prendre toute une série de textes bibliques concernant l'importance d'une bonne communication. J'en ai toute une série ici, mais nous devons avancer. On va prendre peut-être simplement, rapidement, deux ou trois exemples pour voir comment l'information se déforme vite. Regardez dans Nombre, dans le livre des Nombres au chapitre 22. Nombre 22, versets 12 à 14. Nombre 22, c'est l'histoire de Balaam, de ce voyant aveugle, ce prophète mercenaire, prophète malgré lui, c'était un médium, hein, manifestement, une analyse des Écritures le montre clairement. Et donc, Balak envoie des émissaires, le roi de Moab envoie des émissaires vers Balaam pour lui demander de maudire Israël qui doit pénétrer en terre promise. Donc Balaam, verset 8, leur dit, passez ici la nuit, je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. Donc les chefs de Moab restèrent chez Balaam, et la réponse de l'Éternel est tout à fait claire. Pendant la nuit, Dieu en prend l'initiative, Qui sont ces hommes que tu as chez toi ? Balaam répondit à Dieu : Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire : Voici un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre, viens donc, maudis-le, peut-être aussi pourrais-je, ainsi pourrais-je le combattre et le chasserai-je. Dieu dit à Balaam : Tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Alors vous remarquez, hein, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Balaam se leva le matin et dit au chef de Balak : Allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Vous avez vu la déformation de l'information ? Il est tellement dépité, tellement déçu, parce que ce qui l'intéressait, c'était les honneurs et le fric, hein, qu'il prend déjà un raccourci absolument incroyable pour communiquer la nouvelle de Dieu aux émissaires de Balak. Verset 14, les princes de Moab se levèrent, retournèrent auprès de Balak et dirent : Balaam a refusé de venir avec nous. Vous avez vu, hein, avec deux étapes simplement, hein, deux degrés. Hein, après la nouvelle de base, la déformation absolument incroyable du message. Et ça, vous pouvez le vérifier dans quantité de textes bibliques, d'histoires, des Écritures. Quand on est déçu, quand nos ambitions ne sont pas satisfaites, mes amis, c'est incroyable ce que nous commençons déjà à dévier dans la communication de certaines nouvelles plus loin. On est beaucoup plus précis quand on sait que dans 15 jours, on va recevoir un cadeau qui coûte 15 255,75 €. C'est fou ce qu'on est capable d'être précis quand ça nous arrange. Mais si ça nous dérange, c'est autre chose. Mais c'est un exemple, hein, parmi beaucoup d'autres. Qu'est-ce que je peux prendre encore dans ce cadre-là? On va prendre dans le Nouveau Testament. Regardez là, dans Marc 14, Marc 14, 58. Ce sont les fameux faux témoins qui, lors d'un des procès de Jésus, se lèvent pour porter un faux témoignage contre Jésus. Et verset 58, « Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait de main d'homme, et en 3 jours j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. » Faux témoignage, hein? Puisque dans Jean 2, 19 à 21, nous avons le texte exact, hein, qui est tout à fait différent. Hein, dans Jean 2, 19 à 21, il est dit « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Et de surcroît, il est précisé qu'il s'agissait du temple de son corps. Eh bien, ce faux témoignage, avec une distorsion des paroles de Jésus, vous le retrouvez dans Marc au chapitre 15 et au verset 29, les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant « Hé, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours !» Vous voyez ? Le travail du faux témoignage qui continue son chemin, on a lancé une nouvelle mensongère, elle est déjà récupérée quelque part, et elle continue à faire du chemin. Et vous allez retrouver exactement le même message durant le premier martyr de l'Église de Jésus-Christ dans Actes 6, 14. Il s'agit d'Étienne, hein, dans Actes 6, verset 14. Donc, les membres du Sanhédrin produisirent de faux témoins qui dirent : Cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint, contre la loi, car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. Vous voyez, l'Église est née maintenant, mais ça continue. Quand on commence à vous mettre des paroles calomniatrices sur le dos, vous savez, c'est une étiquette qui est rudement dure à ôter. C'est ça le drame. Donc nous devons nous rendre compte de tous les problèmes que nous engendrons quand nous n'allons pas à la source et que nous vivons simplement de la rumeur publique, y compris de la rumeur évangélique. Et je pourrais vous en raconter parce que dans les fonctions qui ont été les miennes, il est arrivé qu'on fasse courir des faux bruits et des faux bruits absolument incroyables. Lorsque il y a eu Mission France en septembre 1986 à Bercy, j'étais à l'époque vice-président de Mission France, et dans un institut biblique que je ne citerai pas en Europe, un étudiant a interpellé le professeur qui donnait le cours, et je travaillais avec lui dans le même comité, pour lui dire, mais écoutez, c'est quand même scandaleux que les organisateurs de Mission France et le comité aient accepté que les témoins de Jéhovah tiennent un stand dans le cadre de Mission France. Et pour être sûr de faire croire que c'était la vérité, il a ajouté, et vous savez, quelqu'un a même vu Maurice Decker à côté de ce stand. Bien entendu, il n'y avait pas de stand des témoins de Jéhovah à Mission France. Je ne vois pas comment on aurait osé faire un truc pareil. Et Maurice Decker, il avait vraiment autre chose à faire ailleurs à ce moment-là. Et bon, mon collègue a pu très vite redresser la barre. Mais voyez, dans un institut public, hein, hop ça. Et pas un institut public laxiste, etc. Un institut très sérieux, mais les bruits courts. Et je pourrais vous donner quantité d'autres illustrations de ce genre. Dans mon livre consacré à Barnabas, vous trouverez le texte d'une des chansons d'Yves Duteil, qui a généralement de très bonnes chansons, et d'ailleurs qui m'a donné le copyright pour que ce soit dans le livre, donc il a un exemplaire du livre aussi, hein. Donc c'est fait avec copyright, hein. Et donc je vous livre le texte parce qu'il est remarquable, hein, sur la rumeur. La rumeur ouvre ses ailes, elle s'envole à travers nous, c'est une fausse nouvelle, mais si belle après tout. Elle se propage à voix basse, à la messe et à midi, entre l'église et les glaces, entre confesse et confit. La rumeur a des antennes, elle se nourrit de cancans, elle est bavarde et haute. Ça occupe, ça converse, ça nourrit la controverse, ça pimente les passions, le sel des conversations. La rumeur est un microbe qui se transmet par la voix, se déguise sous la robe de la vertu d'autrefois. La parole était d'argent, mais la rumeur est de plomb. Elle s'écroule, elle s'étend, elle s'étale, elle se répand. C'est du miel, c'est du fiel. On la croit tomber du ciel. Jamais nul ne saura qui la lance et qui la croit. C'est bien plus fort qu'un mensonge. Ça grossit comme une éponge. Plus c'est faux, plus c'est vrai. Plus c'est gros, plus ça plaît. Calomnie. Plus on nie, plus elle enfle et se réjouit. Démentir, protester, c'est encore la propager. Elle peut tuer sans raison, sans coupable et sans prison, sans procès ni procession, sans fusil ni munition. C'est une arme redoutable, implacable, impalpable, adversaire invulnérable. C'est du vent, c'est du sable. Elle rôde autour de la table, nous amuse ou nous accable selon qu'il s'agit de quiconque ou d'un ami. Un jour, elle a disparu tout d'un coup dans les rues comme elle était apparue à tous ceux qui l'avaient cru. La rumeur qui s'est tue ne reviendra jamais plus. Dans un cœur, la rancœur ne s'en ira pas non plus. Mes amis, tu ne colporteras pas de faux bruits où tu ne rapporteras pas de rumeurs sans fondement, Exode 23, 1. Alors dans mon livre, vous trouverez toute une série de textes, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, oui, près d'une dizaine, d'exemples de ces problèmes au travers des Écritures, qui sont très intéressants à analyser, des situations chaque fois très différentes les unes des autres, mais où on voit les dangers d'une communication dans laquelle on ne prend pas de précautions, où on répète n'importe quoi, où on déforme par dépit, etc., etc., n'est-ce pas ? Où on croit avoir vu, etc. Mais c'est comme ça que Paul a manqué d'être finalement lapidé, même. Hein. On croyait l'avoir vu dans le temple, etc. Alors, il faudrait dire beaucoup de choses aussi sur un des matériaux fondamentaux de la communication, à savoir la parole. Il y a beaucoup de choses à dire sur le sens des mots, la compréhension des mots, les questions de vocabulaire et de culture. Ayant travaillé 2 ans dans la filiale d'une maison d'importation japonaise, j'estimais avoir maîtrisé l'obstacle langage. Un jour, après une discussion avec le chef comptable japonais, je conclus « Il semble que nous ayons des vues parallèles sur ce sujet. » Il acquiesça. Aussi fus-je très surpris 15 jours plus tard de l'entendre soulever le même problème. « Nous avions pourtant dit que nos vues étaient parallèles, dis-je. » Le comptable parut étonné. « Oui, mais parallèle signifie que nous ne nous rencontrerons jamais. » Les mots n'ont pas la même signification sur les lèvres des uns et des autres. Et donc c'est important dans nos relations les uns avec les autres, quand on n'est pas sûr de dire, écoute, qu'est-ce que tu as voulu dire ? Je pourrais vous raconter des histoires qui sont allées très loin. Dans mon ministère, il m'a été demandé à diverses reprises d'être médiateur dans des situations de conflit entre pasteurs, entre pasteurs et anciens, entre églises, etc. Et je me souviens une fois avoir vu arriver sur mon bureau une photocopie d'un courrier qui était adressé par un architecte à un avocat pour lancer une procédure contre le pasteur d'une église de la région parisienne. L'architecte en question était converti à Jésus-Christ, de surcroît c'était quelqu'un que j'avais amené moi-même à Jésus-Christ. J'étais quand même très troublé en me disant, tiens, voilà donc un architecte converti à Jésus-Christ qui veut traîner au tribunal le pasteur d'une église pour des questions d'immobilier, de travail d'architecture, ou à diverses reprises l'architecte avait téléphoné en demandant une avance financière, etc. Et puis, c'était jamais venu. Et nous avons donc pu réunir les deux parties. Et il se trouve que le pasteur était pasteur d'une église chinoise, était lui-même chinois. Et en parlant longuement avec chacun des deux parties, nous nous sommes rendus compte que c'était un problème d'interprétation lié à la différence de culture. Le Chinois, quand il avait l'architecte au téléphone, tout pasteur qu'il était, au lieu de dire clairement non, se taisait. S'il avait eu en face de lui un Chinois, le Chinois aurait tout de suite compris que l'autre voulait dire non. Le problème, il y a eu un Français. Et donc, une fois qu'on a trouvé où le bât blessé, et que c'était un problème de type culturel, comme quoi, vous voyez qu'il y a des domaines de la culture qui sont vraiment à mettre sous la croix. Hein. Aujourd'hui, on a aussi beaucoup d'élasticité vis-à-vis des cultures, on est d'une grande générosité quand on voit un petit peu les problèmes que ça pose, voyager un petit peu partout. Le tribunal a été évité à cause de ça. Parce que ces deux hommes ont pu se réconcilier, se comprendre, précisément à cause des différences d'approche du langage, parce que le Chinois, quand il doit revenir éventuellement sur une décision, parce qu'il ne veut pas perdre la face, ça c'est quelque chose qu'on connaît bien à Madagascar aussi, parce qu'il y a un arrière-plan pour toute une grande partie de la population malgache qui est de type oriental. Hein, et on sait là-bas ce que c'est. Je dis ça à notre sœur parce qu'on s'est vu à Madagascar il y a 20 ans, hein, pour un séminaire. C'est encore sur mon cœur, parce que c'est une île qui est sur mon cœur. Donc voyez, hein, je vous donne un autre exemple. Contrôleur dans une grande banque, je dînais un soir avec mon chef de service. Au cours du repas, il me parla du contrôle des espèces, hein, auquel nous devions procéder le lendemain matin. On commencera par s'attaquer aux caissiers et ensuite on fera les coffres. Le lendemain matin, en arrivant à la banque, nous fûmes embarqués par la police. Elle nous apprit plus tard qu'un inspecteur avait dîné la veille au même restaurant que nous. L'ambiguïté du langage, ça va bien tant qu'on se connaît. Hein? L'une de mes amies était caissière dans un supermarché. Un jour, sa caisse montra des signes de défaillance. Elle se tourna alors vers l'une de ses collègues et lui lança, en désignant un client qui attendait son tour, « Annie, tu peux taper le monsieur, je ne peux pas l'encaisser. » J'espère que le monsieur en question, c'était un bon Français habitué au langage de ce genre. Mais imaginez que ce soit un bon étranger qui suit des cours à l'Alliance française ou à Tours ou à Albertville, je ne sais où, hein, et... À la suite d'un décès, une dame appelle les pompes funèbres et commande une couronne. Elle désire honorer son amie d'enfance et prépare un texte à inscrire sur le ruban de la couronne. Elle a en face d'elle, au téléphone, une nouvelle secrétaire des pompes funèbres. Elle lui dicte le texte en question et elle lui dit « Vous inscrirez « Repose en paix ». Sur les deux côtés, puis vous ajouterez encore « Au revoir au ciel ». Bien sûr, s'il y a encore de la place. Le jour de l'enterrement, la dame va chercher la couronne de son ami et découvre l'inscription suivante « Repose en paix sur les deux côtés ». Bon. Oh, ça fait du bien. Au revoir au ciel, s'il y a encore de la place. Bon. Il faut qu'on s'amuse un peu. Oh, j'en ai d'autres dramatiques. Hein. Bon, écoutez, je ne vais pas aller plus loin sur ce premier point. C'est la joie. Bon, j'aimerais quand même encore rapidement aborder le deuxième aspect, troisième enseignement. Donc, premièrement, aller à la source. Il va à la source. Deuxième enseignement concernant acte 9, et ça c'est aussi un enseignement fort et que j'aime beaucoup. Barnabas dit non à ce que j'appelle la sclérose du regard. La sclérose du regard. Sclérose, c'est un terme grec qu'on trouve dans les Écritures, qui a été francisé. On le trouve assez souvent dans les Écritures, 16 fois en tout cas dans le Nouveau Testament, pour parler de la rigidité, la sécheresse, la dureté du regard. Il est question de dureté du cœur, de dureté de la nuque. Hein, bien des reprises dans les Écritures et dans le Nouveau Testament, c'est parfois ce terme qui est utilisé. La sclérose du regard, qu'est-ce que c'est? Bien, revenons à l'explication que nous donnions tout à l'heure. 2 à 3 années, en tout cas 3 années à peu près, après sa rencontre bouleversante avec le Christ glorifié sur le chemin de Damas, Saul était repoussé de l'église de Jérusalem à cause de son passé. mais d'un passé qui remontait à 3 ans en arrière. Son jugement était figé dans le passé. Le jugement de l'Église de Jérusalem était figé dans le passé à un moment de l'histoire de Saul. Vous comprenez ? Toute cette période qui avait été tellement dure, n'est-ce pas ? Et l'enseignement que je tire de cela, c'est que nous sommes toujours tentés de juger les autres une fois pour toutes. Je vais imaginer 2 situations Quelqu'un vous a conduit à Jésus-Christ, un des maillons dans la chaîne de la souveraineté de Dieu, que Dieu utilise pour vous amener à Jésus-Christ. Ou bien Dieu l'a placé sur votre chemin à un carrefour stratégique pour des décisions engageant tout votre avenir. Bref, quelqu'un a été utilisé par Dieu pour exercer sur vous une saine influence prépondérante, forte, stratégique à un moment donné de votre histoire. Vous avez cette personne à cœur. Vous l'aimez. Que faites-vous si 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans plus tard, quelqu'un vous dit comme ça, brûle pour point, oula, cette personne, elle s'est vraiment très mal conduite. Et actuellement, elle est ou exclue d'une église locale, enfin, une nouvelle catastrophique. Trop souvent, vous allez avoir une réaction qui consistera à prendre la défense de cette personne. Vous ne pouvez pas croire et accepter que cette nouvelle soit corresponde à la vérité, n'est-ce pas ? Parce qu'on a touché à quelqu'un que vous aimez, votre évaluation est liée à votre affectivité par rapport à cette personne et à son passé, n'est-ce pas ? Et c'est valable dans l'autre sens. Si ce soir je me conduisais brutalement, méchamment, de manière vindicative, blessant cruellement quelqu'un, il est fortement probable que dans 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans, sauf si cette personne a une saine relation avec Dieu, chaque fois qu'elle pense à moi ou qu'elle évoque ma personne ou que quelqu'un évoque ma personne avec elle, elle dit « Ne me parlez pas de M. Decker. Oh, il s'est conduit d'une manière tellement honteuse, grave, cruelle à mon égard. » C'est tentant, n'est-ce pas, de se figer